Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Les images avaient fait le tour du monde. Le 1er février 1979, l'imam Khomeini descend de son Boeing 747 Air France en provenance de Paris et pose le pied sur un pays dont il s'était exilé depuis 15 ans, l'Iran. Alors une foule immense vient acclamer celui qui incarne alors la révolution et qui instaurera 10 jours plus tard la République islamique.
Un mouvement islamiste parvenu au pouvoir est une contradiction. Les conservateurs ne conservent pas et les réformateurs ne réforment rien. Mais une contradiction qui dure depuis plus de 30 ans, instable et inadéquate à elle-même. Cela mérite quelques explications.
Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission intitulée aujourd'hui « L'Iran d'une révolution à l'autre, aux origines de la révolution iranienne de 1979 ». Et pour en parler, nous sommes avec Habib, qui est donc le préfacier d'un important ouvrage de Théocom, alias Théorie communiste, de la politique en Iran, qui était paru aux éditions Sénon et Véro en 2010. Bonjour Habib.
Bonjour.
Alors du coup, tu voulais commencer cette émission par un hommage donc aux morts et aux blessés de la dernière révolte en date en Iran.
Oui, en effet. Ça serait difficile de parler de l'Iran sans avoir une pensée pour tous les gens qui sont tombés, les prolétaires, les jeunes, les enfants de prolétaires, les ouvriers qui sont tombés dans la dernière période. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour les gens qui sont tombés, pour les révolutionnaires qui sont tombés en 1980, au commencement de la guerre et à la fin de la guerre en 88 en Iran. On a eu deux séries d'exécutions extrêmement graves, puisque un des auteurs à qui on fait référence dans notre discussion, c'est Abrahamian. Abrahamian, en épigraphe de son livre sur l'Iran, il a marqué à la mémoire de plus de 300 personnes qui ont été pendues en 1988, dans les prisons iraniennes parce qu'ils n'ont pas voulu prétendre croire à une force surnaturelle. L'événement, c'était qu'en 88, après la fin de la guerre irano-irakienne, ils ont décidé de faire table rase de toutes les forces d'opposition et les militants de gauche qu'ils avaient entassés avant le commencement de la guerre et durant la guerre dans les prisons. Il y avait des gens qui avaient déjà été condamnés. Il y en avait qui étaient condamnés à 3 ans, 4 ans, 10 ans, enfin. Mais un beau jour, Khomeini a demandé que tous ces gens-là soient exécutés. Donc il y a eu des milliers de morts. Abrahamian mentionne 300 personnes, mais en fait il y a eu beaucoup plus de ces gens-là à qui on a posé une question fatidique. Est-ce que vous croyez au Dieu ? Est-ce que vous croyez à une force surnaturelle ? C'est pour ça qu'Abrahamian soulève cette question de prétendre croire à une force surnaturelle. Et ils ont eu le courage de dire non. Et ils ont été sur le champ fusillés. Donc c'est un épisode noir de la révolution iranienne. Donc on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour ces gens-là.
Et on en profite du coup pour dire qu'on enregistre du coup une série d'émissions, deux en l'occurrence sur l'Iran. Donc la première qui est donc aux origines de la révolution iranienne de 1979, qui est vraiment un moment pivot dans l'histoire iranienne du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième émission, on sera consacré à une analyse marxienne de la République islamique d'Iran, notamment donc à partir de l'ouvrage de la politique en Iran que tu as préfacé. Pour rentrer dans le bain, on va repartir de la période d'où part justement l'historien Abrahamian. L'Iran, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, l'Iran de la dynastie des Qajars, donc qui est une société qui n'a radicalement rien à voir avec la société actuelle, puisqu'il s'agit d'une société précapitaliste, avec un État quasiment inexistant, pas de bureaucratie, une armée permanente extrêmement dérisoire, un pouvoir impérial qui règne uniquement sur Téhéran et ses environs, une domination donc des notables traditionnels, des tribus, donc une société qui est dominée également par des rapports de production agraire traditionnels, donc voilà, qu'en Europe on qualifie de féodaux, même si évidemment il ne s'agit pas de dire que toutes ces sociétés sont féodales, c'est en général plus compliqué que ça, mais voilà, pour donner une idée, basée donc sur l'extraction des récoltes par une aristocratie foncière et un clergé chiite, voilà, qui est aussi une des spécificités de l'Iran. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette société Qajar, où les changements, les bouleversements socio-économiques qui vont mener à la révolution de 1905-1906 vont venir notamment de l'extérieur et notamment des influences impérialistes de la Russie au nord et de la Grande-Bretagne au sud qui vont voilà, introduire un certain nombre de bouleversements très progressivement et qui vont germer et donner naissance à la révolution de 1905-1906.
Oui, en fait, la question très importante, c'est de considérer toute cette époque en relation, c'est-à-dire à partir des Rojors et à partir du commencement, en fait, de l'histoire des Rojors, on a les influences étrangères dans le pays. Et à la rigueur, je dirais que sans cette position stratégique de l'Iran, et puis après, sans la découverte du pétrole en Iran, on serait même pas en train de discuter. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'Iran n'avait pas d'importance stratégique. L'importance venait, comme tu le dis, par rapport à l'Empire russe d'un côté au nord du pays et puis l'Empire britannique qui était au sud, qui était présent dans le Golfe et qui voulait surtout sauvegarder. C'était son chemin vers les joyaux de la couronne en Inde d'un côté. Et puis de l'autre côté, c'était l'Empire russe avec qui l'Iran était tout le temps en conflit territoriaux. En 1801, il y a eu des traités entre l'Iran et les Anglais, mais surtout entre 1800 et 1830, il y a eu deux guerres, parce qu'au commencement de l'Empire Rojor, quand les Rojors ils ont pris le pouvoir, ils ont pu unifier l'Empire perse, dans le sens où ils ont pu faire entrer dans le territoire toute une partie de Géorgie et de Caucase, qui étaient qui se sont avérés être des régions pétrolifères. Donc c'était très important. Mais dans les conflits territoriaux qu'il y a eu en 1805 et puis après vers 1829 par là, l'Iran a perdu en fait ces territoires-là. Ça a abouti déjà à des traités qui sont considérés pour les Iraniens, même dans les des Iraniens, le traité de Golestan et le traité de Turkmenchoy. C'est vraiment des points noirs pour des Iraniens, dans le sens où ils ont tout perdu, ils ont donné un pouvoir énorme aux Russes, ils ont libéré la navigation sur la Caspienne et les droits de commerce total aux Russes qui avaient toute liberté sans taxes de faire. Et Golestan et Turkmenchoy, donc de ce point de vue, étaient déjà un point de commencement pour les relations commerciales entre l'Iran et la Russie. Mais l'Iran n'a jamais été une colonie, parce que justement, aucun de ces deux forces n'était suffisamment forte par rapport à l'autre pour pouvoir prétendre à faire une colonie de l'Iran. C'est surtout à partir de Fateh Ali Shah, qui était le deuxième souverain Rojor, qu'on a eu des rapports avec l'étranger. C'est vrai que les Rojors dominaient, en fait, ça s'approchait de la façon qu'ils traitaient les forces étrangères, l'Empire britannique et l'Empire russe. C'est-à-dire, ils essayaient tout le temps, même à l'intérieur, parmi tous les tribus qui existaient, les notabilités, les tribus et autres qui existaient, en jouant l'un contre l'autre toujours, qu'ils gardaient leur pouvoir. C'était pas tellement par leur force qu'ils pouvaient dominer, qu'ils pouvaient régner, c'était surtout en se basant sur la faiblesse des autres. Donc il était tout le temps en train de jouer les rivalités entre les tribus qui existaient. Au moment de Fateh Ali Shah, donc, on a eu les premiers contacts avec l'étranger. Il y a eu des représentants donc, des étrangers qui sont venus en Iran. On a eu des voyages. Le commerce s'est développé petit à petit. C'est à ce moment-là, au moment de Fateh Ali Shah, qu'on voit une réforme de l'armée qui s'ébauche. L'imprimerie est introduite. Des étudiants sont envoyés à l'étranger pour recevoir une formation militaire et technique. Donc on voit les premiers contacts avec l'étranger. À ce moment-là, le règne de Fateh Ali Shah avait ceci de particulier que Fateh Ali Shah essayait de créer des rapports privilégiés avec le clergé chiite. Parce que ça, c'est une notion très importante, la source de légitimité en Iran. Déjà, sous les Safavides, quand les Safavides ils ont pris le pouvoir, ils ont essayé de mélanger deux sources de légitimité. La légitimité de la royauté qui venait de l'Empire perse ancien, et puis également, en officialisant le chiisme comme religion officielle, ils voudraient se démarquer des Ottomans qui étaient sunnites. Oromo Amatron, qui était le premier, et puis après Fateli Shah qui a suivi ça, ils ont essayé de constituer une légitimité basée sur les deux pied de la royauté d'un côté et de la religion de l'autre. Donc Fateli Shah, il a renforcé cet état de fait parce qu'il s'est allié avec tout le clergé chiite et les notables qui appartenaient à ce clergé chiite. On dit qu'il s'est marié 198 fois, et il a marié ses enfants 160 fois avec des personnalités donc appartenant au clergé chiite. Donc, dans le livre dont on fait référence dans notre discussion, c'est le livre d'Abrahamian. Lui, en particulier, il définit les quatre classes dans la société Qajar. Il dit, premièrement, c'est la classe dominante, les rois, les chefs des régions qui constituaient les élites de la capitale et de la province. Les élites de la capitale appartenaient bien entendu aux dynasties Qajar, les princes, les gens de la cour et les comptables gouvernementaux, c'est-à-dire les mostoli, ce qu'on dit, les grands propriétaires terriens qui avaient reçu du Shah, bien entendu, leur terrain, les ministres et les personnalités qui avaient des titres, et au niveau local, la noblesse, mais aussi les religieux qui étaient liés à la cour, les juges des tribunaux locaux. Ces élites ont constitué plus tard l'aristocratie, les gens qui appartenaient en fait à la classe dominante. Ça, c'était la première classe telle que définie par Abrahamian. La deuxième classe, c'était la classe moyenne aisée, les grands commerçants et les artisans. Cette classe répondait aux besoins financiers des mosquées, du bazar, les écoles coraniques, les taquiers, qui sont également des institutions religieuses, qui étaient très liées aux oulémas et les mollahs, les étudiants des écoles coraniques. Ces liens financiers et d'intérêt étaient consolidés également par des liens de mariage, comme je viens de le dire, très souvent. Les ayatollahs et les hujjatul islam, c'est les gens qui font les prêches de vendredi, avaient des liens familiaux avec les grands commerçants du bazar. Donc c'est traditionnellement, le bazar a toujours soutenu le clergé chiite. La troisième classe était les salariés de ville, surtout les petits artisans et leurs commis salariés, les ouvriers du bâtiment et tout ça, donc je veux dire vraiment le peuple travailleur. Et la quatrième classe était bien entendu les ra'yat, c'est-à-dire les paysans pauvres, les cultivateurs. Ce qui est important, c'est de comprendre la façon que Abrahamian utilise ce modèle, c'est-à-dire même dans la définition même de la classe qu'il donne, c'est très intéressant. Ce qu'il approche plutôt, je dirais, parce qu'il y a eu une discussion sur l'appartenance théorique d'Abrahamien. On lui a posé la question de savoir est-ce qu'il était quelqu'un qui acceptait les théories de Hobsbawm. Et lui, il a dit plutôt qu'il se penchait plutôt du côté de Thompson. Dans son livre, dans la deuxième traduction, il mentionne quelque chose que Thompson a dit à propos des classes. Je trouve ça très intéressant dans la manière que chez les marxistes, cette manière mécaniste de définir les classes qu'on voit malheureusement très souvent, lui, il voit une espèce de dialectique dans la définition des classes. Il cite donc Thompson dans son ouvrage sur l'Iran et il dit « Les sociologues qui ont arrêté la machine à remonter le temps et qui, au prix d'un lourd labeur conceptuel, sont descendus voir dans la salle des machines, nous disent qu'ils n'ont nulle part localisé et répertorié une classe. Ils ne trouvent qu'une multitude de gens aux professions, revenus, statuts différents. Ils ont bien sûr raison, puisque le terme de classe ne renvoie pas à telle ou telle pièce de la machine, mais à la façon dont celle-ci fonctionne une fois en marche. Non pas à tel ou tel intérêt, mais au conflit des intérêts, au mouvement lui-même, à la chaleur, au vacarme. Une classe est une formation sociale et culturelle, trouvant souvent une expression institutionnelle que l'on ne peut définir dans l'abstrait ou isolément, mais seulement dans sa relation avec d'autres classes. Et finalement, la définition ne peut s'élaborer qu'en fonction de la dimension temporelle, c'est-à-dire en termes d'action et de réaction, de changement et de conflit. Quand nous parlons d'une classe, nous avons à l'esprit une catégorie de population définie de manière très vague, de gens qui partagent le même ensemble d'intérêts, d'expériences sociales, de traditions et le même système de valeurs qui ont une disposition à se comporter en tant que classe, à se définir dans leur action et leur conscience en relation à d'autres groupes en termes de classe. Mais une classe en elle-même n'est pas une chose, elle advient. Et ça a été traduit en français, elle advient, en fait, dans l'expression anglaise, il dit « it's a happening ». Ça serait peut-être plus correct de dire « la classe en soi n'est pas une chose, c'est ce qui arrive ». Et je trouve ça qui était très intéressant, en fait, dans la façon que théorie communiste, en particulier de la politique en Iran, mais bien avant la politique en Iran, il faut savoir que théorie communiste a produit un autre texte. Le 20 février 1979, c'est-à-dire quasiment 10 jours après l'insurrection, ils ont produit un autre texte sur la lutte de classe en Iran qui est pareil, qui est, je trouve, pour la première fois quand j'ai vu ces textes, et j'ai eu l'impression qu'on est en train de partir d'un point de vue dynamique par rapport aux classes. Ce n'est pas quelque chose qui soit figé, qu'on voit très régulièrement dans les analyses qui sont faites de la situation iranienne.
Oui, du coup, en fait, ce qui est intéressant justement dans la perspective de Thompson, voilà, avec son célèbre livre « La formation de la classe ouvrière en Angleterre », qui rejoint donc les analyses d'Abrahamian et de théorie communiste, c'est l'idée que finalement on peut appréhender l'histoire de l'Iran depuis le 19e siècle et le début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui comme une lutte de classe où c'est pas simplement des classes qui seraient toujours identiques à elles-mêmes, ni qui seraient simplement des purs reflets du changement des rapports de production, c'est-à-dire la transition d'une société globalement qu'on peut qualifier de féodale, pré-capitaliste sous les Qajars, jusqu'à la société capitaliste d'aujourd'hui, mais que en fait toutes ces classes dont on a parlé, elles se modifient avec aussi une marge de manœuvre qui fait qu'elles ne sont pas simplement des purs reflets des changements, des rapports de production, mais qu'elles tentent de tirer leur épingle du jeu. Et effectivement, si on regarde aujourd'hui, il y en a qui ont tiré mieux leur épingle du jeu que d'autres. Par exemple, personne n'aurait dit au début du XXe siècle, un marxiste serait penché sur l'Iran, personne n'aurait dit que le bazar ou le clergé chiite allait devenir aussi important et allait demeurer, alors qu'une analyse marxiste-mécaniste les aurait vus voués à la disparition, comme la petite bourgeoisie de manière générale. Enfin voilà, on n'aurait pas vu le clergé et le bazar comme potentiellement des acteurs qui réussiraient à se renouveler face aux transformations socio-économiques et qui deviendraient même des acteurs révolutionnaires, en l'occurrence pendant la révolution de 1979.
Absolument. Ce qui est intéressant dans la période Qajar, si on veut revenir sur le mode de fonctionnement de cette société, c'était de comprendre que la structure économique du pays, c'est-à-dire de l'Iran, n'avait pas changé depuis 2500 ans. C'est-à-dire que c'est une structure agraire. Et dans cette structure agraire, malgré toutes les invasions qu'on a eues, les invasions des Arabes, des Mongols, des Turcs, constamment l'Iran a été envahi, mais néanmoins, la structure de la production agricole est restée le même. Chaque fois qu'un régime prenait le pouvoir, qu'une dynastie prenait le pouvoir, en fait, il ne touchait pas à la structure même de la production agricole, seulement il penchait un peu le bout de ce tronc vers son côté pour avoir le surplus agricole. Donc ça a perduré quasiment jusqu'au Pahlavi, jusqu'à la révolution agraire de 1960. On a eu cette structure qui n'a quasiment pas bougé. Mais néanmoins, dans cette structure, on a de plus en plus l'arrivée, le contact avec le mode de production capitaliste tel qu'on le définit. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'analyse classique marxiste qu'on fait, on a l'impression que ce sont des boîtes différentes, ces pays, et ces pays, que ce soit l'Empire britannique, l'Empire russe, l'Iran en tant que tel là-dedans, les rapports qu'ils ont ensemble, il faut les comprendre en relation de chaque période de développement de chacune de ces forces-là.
C'est un développement inégal et combiné.
Exactement. C'est-à-dire, c'est pas des boîtes noires, si tu veux, qui, seulement à travers le commerce international, a un certain rapport entre eux. Ils interviennent de plus en plus dans le mode de fonctionnement de ces sociétés. C'est ce qui apparaît quand on voit que, par exemple, chez le Rojor, de plus en plus, par exemple, sous Nasreddin Shah, on a de plus en plus le commerce qui, avec toutes les contradictions que ceci peut impliquer. On a une classe moyenne qui petit à petit commence à exister. On a petit à petit tout ce que, par exemple, sous cette période, c'est-à-dire sous Nasreddin Shah, c'est le premier souverain iranien qui est venu à l'étranger. Donc il est venu à Paris, enfin il a fait... Et donc il voyait tout ce qui se passait à l'étranger. Et il avait Amir Kabir qui était son premier ministre, qui a créé, par exemple, Darul Funun, qui est une école d'ingénieurs militaires et tout ça. Après, il a eu un autre premier ministre qui s'appelait Sepah Sollar, qui lui aussi a introduit beaucoup de changements au niveau de l'appareil étatique, de la bureaucratie. Ils ont commencé à créer vraiment une bureaucratie, c'est-à-dire ils répondaient, en quelque sorte, aux nécessités qui étaient imposées, en fait, de l'extérieur, mais qui étaient les nécessités, donc, de cette période qui, petit à petit, on est en train d'aller vers l'internationalisation du capital. Donc, ils commençaient à répondre à cette exigence en créant la modernité en Iran. Mais en même temps, fait obstacle, si tu veux, à cette modernité, toutes les traditions qui existent, les propriétaires terriens, les notables, le clergé, donc ils sont en contradiction par rapport à ça. Et c'est ça qui fait, en fait, l'apparition du mouvement qui a abouti, en effet, à la révolution constitutionnelle. C'est ce mouvement, c'est-à-dire en même temps, le pouvoir Rojor, il crée petit à petit la bureaucratie, parce que c'était très différent sous Nasreddin Shah, si on le compare par exemple avec la période de Fath Ali Shah, où avant c'était une diplomatie qu'on appelait une diplomatie sous la tente. Ils avaient une tente, il y avait quatre personnes qui discutaient et qui décidaient, si tu veux, de la politique. Donc il n'y avait pas, à proprement parler, une bureaucratie très forte. Ça a commencé à être créé sous Nasreddin Shah.
Et d'ailleurs, les réformateurs libéraux, un de leurs modèles, c'est la Révolution française. C'est l'idée que finalement, il faut une transformation comme avant tout de l'ordre sociopolitique, un petit peu comme en 1789. Au niveau de l'État, il faut un État qui prenne vraiment en charge la société iranienne, qui soit centralisée, mais en même temps démocratique, constitutionnelle, qui fasse des réformes libérales économiquement, et donc finalement qui implique l'abolition du féodalisme, qui est la structure de base de la société iranienne depuis 2500 ans. Donc ça, c'est plutôt des idées qui viennent, on va dire, de l'Occident. Il y a beaucoup de gens, notamment, qui reviennent de France et de Belgique, hein, parce que la France et la Belgique sont considérés comme des pays plus neutres. Donc, du coup, on peut envoyer les enfants de l'aristocratie, de la bourgeoisie, etc., là-bas, parce que c'est pas comme les envoyer en Angleterre, où là, évidemment, ils seraient une arme de l'impérialisme britannique. Et puis, de l'autre côté, un autre acteur qui est issu de ce développement inégal et combiné de l'Iran, c'est les prolétaires immigrés de Bakou, qui vont ramener notamment les idées socialistes de 1905, la révolution russe de 1905.
Oui, absolument. C'est-à-dire on voit en fait apparaître une bourgeoisie nationale, entre guillemets, parce que ils sont pas réellement une grande bourgeoisie, quoi. C'est une bourgeoisie nationale qui commence à être créée au moment déjà de Nasreddin Shah, parce que par exemple on voit dans les récits historiques qu'il y a du côté de Tabriz, par exemple, la production de l'électricité. Pour Mashhad, qui est une ville sainte du 8e imam chiite, ils produisent l'électricité à Mashhad. Donc, on a différents types de production. La production de sucre dans le nord du pays à Mazandaran, production de soie à Gilan, encore dans le nord du pays, des usines de nettoyage de coton à Téhéran, fabrication de papier, imprimerie, comme je l'ai dit, à Téhéran, à Ispahan. Et donc, petit à petit, il y a des sociétés anonymes et des sociétés à action même qui se créent. Donc, petit à petit, on a une sorte de germe de bourgeoisie nationale qui, en même temps, comme tu dis, du fait des voyages qui se sont accentués par rapport à l'étranger, donc ils connaissent ce qui se passe, ils ont un œil, sur tout ce qui se passe en Europe et même en Turquie à l'époque. Donc, c'est très important. On voit que, par exemple, ils financent des bibliothèques publiques à Téhéran, à Tabriz. Ils créent des écoles, notamment des écoles de filles. Ils financent des journaux réformistes. Il y a eu des journaux historiques qui ont abouti à la révolution constitutionnelle. Donc on a eu tout un mouvement, je dirais, pas des Lumières, mais fortement influencé des Lumières, qui à l'époque déjà de Nasreddin Shah, on voit que ça existe. Donc il y a, en même temps, on a des associations qui se créent, des associations qui sont vraiment de tendance nationaliste, qui sont semi-officielles, genre l'association nationale, l'association Adamiyat, Adamiyat ça veut dire humanité. Il y a eu le comité révolutionnaire, qui étaient les révolutionnaires dont tu parlais, notamment qui étaient proches des sociodémocrates russes, le comité clandestin. Donc tous ces gens-là, le comité clandestin, qui était fait d'après le modèle de la franc-maçonnerie, ça commençait à se répandre, les idées de la lumière, des Lumières en réalité. Donc on arrive en fait à la révolution constitutionnelle. Très souvent on dit que la révolution constitutionnelle a démarré en 1890, c'est que le Shah accorde la concession sur le monopole de la production et de la vente et l'exportation du tabac à une compagnie anglaise, la Régie Talbot. Ça correspond également à la façon que le capitalisme, à ce moment-là, commence à venir dans les pays, si tu veux s'installer dans les pays. À ce moment-là, on a beaucoup, beaucoup de concessions, c'est-à-dire l'État Rajah, du fait qu'il suffisait qu'il y ait une situation de sécheresse, quelque chose qui va de travers, pour qu'il soit en déficit. Donc ils ont besoin, pour combler ces déficits, mais notamment à partir de Nasreddin Shah, les voyages à l'étranger qui leur coûtent très très cher, parce qu'ils ont besoin de faire, donc de demander des crédits aux Russes et aux Britanniques. En contrepartie de ces crédits, ils accordent des concessions. C'est une façon très courante d'avoir de l'argent pour pouvoir... Ils ont fait une concession en 1890 par rapport à la régie Talbot sur l'histoire du tabac. Ça crée un tel mécontentement populaire... Le fait que le bazar a réagi par rapport à ça, tous ces gens-là, mais parce qu'ils avaient la main coupée de leurs sources de revenus par rapport à ça, les olamas, les intellectuels, justement ces intellectuels dont on était en train de parler, tout ça, donc, ils se mettent en contestation par rapport à ce choix. Des manifestations éclatent dans de nombreuses villes et donc les marchands de bazar sont à la pointe de la contestation. Et il y a un religieux qui s'appelle Mirza Hasan Shirazi, il lance un fatwa. La fatwa, tu connais le système des fatwas avec Salman Rushdie, il lance un fatwa contre la consommation du tabac. Et ce fatwa est tellement bien suivi que même on dit que dans le haram du Shah, dans son intérieur à lui, cette interdiction était respectée. Par tout le monde, c'était respecté. Ce mouvement est généralement considéré comme un déclencheur de l'agitation révolutionnaire qui prend forme, en fait, après Nasreddin Shah, qui donne la révolution constitutionnelle donc de 1906-1912.
Oui, et juste pour un peu préciser, évidemment, tous ces acteurs qui vont se retrouver dans la coalition qui va mener donc, à l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, évidemment, ils ont des intérêts assez différents. Disons qu'il y a un consensus contre le Shah et aussi contre les impérialismes étrangers, qui notamment, donc en 1907, vont se mettre d'accord pour se partager l'Iran en zone d'influence, au sud de la Grande-Bretagne et au nord la Russie. Et évidemment, voilà, on a d'un côté... Le bazar qui défend son monopole du commerce, hein, puisque voilà, qui détient en partie jusqu'à aujourd'hui. Et on a évidemment d'autre part voilà, le clergé qui défend ses prérogatives contre le Shah et contre les impérialismes étrangers. Et puis on a évidemment d'autre part tous ces réformateurs libéraux qui, eux, ne sont pas dans une défense du statu quo, mais plus dans l'idée qu'il faut changer fondamentalement les structures socio-politiques de l'Iran pour aboutir à la modernité telle qu'ils l'ont vue en grande partie en Occident, avec l'idée aussi que derrière il y aura des changements économiques, mais pour eux d'abord c'est les changements sociopolitiques qui priment, d'où le fait que finalement... Cette révolution de 1906-1912, elle est avant tout une révolution politique, et finalement les grandes transformations économiques vont plutôt avoir lieu sous Reza Shah dans les années 20, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Du coup, est-ce que tu peux revenir brièvement sur qu'est-ce que ça a été que la révolution constitutionnelle en Iran, et aussi comment est-ce qu'elle a été prise dans tout un tas de contradictions qui ont préparé, disons, l'ascension au pouvoir de Reza Shah au début des années 1920.
Oui, comme j'ai dit, les concessions étaient une façon d'intervention des Britanniques et des Russes en Iran et une façon qui faisait qu'ils s'impliquaient en réalité dans l'économie iranienne. C'est très important parce que beaucoup de transformations sont faites sous leur houlette dans cette perspective-là. Une des concessions qui a eu des conséquences très importantes à ce moment-là, sous Nasreddin Shah, c'est ce qu'on appelle les concessions Reuter. Baron Julius de Reuter, qui est le gars qui a créé l'agence de presse Reuter, il a pu avoir une concession du Shah qui était tellement importante que même les Britanniques n'ont pas osé le soutenir. Lord Curzon, qui avait voyagé en Iran, qui était un des représentants britanniques en Iran, qui a été un moment ministre des Affaires étrangères, lui, il a dit que c'est la plus grande concession jamais faite d'un pays à une personne et même à un autre pays. Donc c'était quelque chose qui couvrait quasiment tout. C'est comme s'il avait donné la clé du pays à ce gars-là. Il a donné, par exemple, le monopole de l'exploitation des chemins de fer et une concession de 70 ans sur une ligne reliant la Caspienne au golfe Persique, ce qui était le rêve de toujours de l'État iranien qui a été jusqu'à... parce que ça a été réalisé sous Reza Shah, cette ligne qui reliait la Caspienne au golfe Persique. Le contrôle et l'exploitation des routes, du télégraphe, du tramway, des mines, à l'exception de certains minerais précieux, d'ouvrages d'irrigation, de barrages, des forêts. C'était vraiment... ils avaient tout donné. La concession est tellement immense que personne ne pouvait y croire, donc c'est tout à fait normalement. Il y a eu donc une contestation énorme avant tout le monde, la Russie, qui ne pouvait jamais accepter qu'ils prennent tout. Il y a eu des mouvements populaires contre cette concession. Ça fait que l'État, Nasreddin Shah, a été obligé de retirer en payant des compensations très chères. Parmi ces compensations, ils ont autorisé les Anglais de créer la banque impériale, Perse, si tu veux, mais en fait, c'était la banque qui appartenait aux Britanniques.
La banque centrale.
Une sorte de banque centrale. Ça s'appelait l'Imperial Bank of Persia, avec droit exclusif d'émettre des billets de banque pendant 60 ans. Cette banque fonctionne pendant 40 ans comme principale banque commerciale, mais aussi comme banque centrale de la Perse. Mais en même temps, c'est cette banque qui détient le droit exclusif d'exploiter les mines de l'État dans le secteur du fer, du cuivre, du plomb, du mercure, du charbon, du pétrole, de manganèse, de borax, de l'amiante. Elle crée pour ce faire le Persian Bank Mining Rights Corporation, une société, au moment même où ils arrêtent la concession Reuter, dans les bagages de cette concession Reuter, et puis dans la banque qui s'en suivit, il y a un gars qui s'appelle Naks Darcy. Darcy, c'était un Australien éleveur de moutons. Donc, c'est lui qui a commencé à faire des recherches pour le pétrole. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que le pétrole iranien, en réalité, le pétrole en Iran, c'est quelque chose qui date de... Hérodote en a parlé parce qu'on avait des affleurements de pétrole. Le pétrole sortait de la terre, en réalité. Et les Sumériens, ils utilisaient ça il y a 2500 ans, si tu veux, ils l'utilisaient comme flèche parce que c'était une matière inflammable. Et puis après, c'était utilisé comme du goudron dans les constructions qu'ils faisaient de manière traditionnelle. Il a eu donc l'autorisation à partir de 1901 de faire des recherches pour l'exploitation du pétrole. Ils étaient quasiment en train de partir en 1908, ils ne trouvaient pas. Il avait pas mal investi là-dedans, mais il ne trouvait pas du pétrole. Et apparemment, quelques jours avant la date de départ, il trouve donc à Naftoun, qui est une région dans le sud de l'Iran, il trouve du pétrole. Un an plus tard, il le vend aux Britanniques. Donc, c'est là où tu as le British Petroleum qui se crée, si tu veux, à partir de 1908. L'affaire de la révolution constitutionnelle à proprement parler, ça commence en décembre 1905 dans un contexte d'agitation lié aux difficultés économiques. Il y avait une inflation très importante parce que le prix du pain avait augmenté de 90% et le sucre de 33% à l'époque, à ce moment-là, parce qu'il y avait une sécheresse très importante d'un côté. Et puis de l'autre côté, parce que la Russie était en guerre contre le Japon en 1905, tout le commerce qui existait avec la Russie s'était arrêté. Donc ça fait que ça a influencé sur la situation iranienne. Le gouverneur de Téhéran, pour montrer qu'il était avec le peuple et qu'il comprenait les difficultés des gens, il va abattre 3 marchands de bazar parce que qui vendaient du sucre, parce qu'ils vendaient trop cher, donc il les fait abattre. Et devant ça, les autres gens du bazar, les commerçants du bazar, et avec eux les oulamans, ils rentrent, si tu veux, dans le mouvement de contestation contre ça. Après ça, donc, il y a des épisodes de la révolution constitutionnelle. Ils vont à Shah Abdelazim, qui est un mausolée 30-40 km de Téhéran. Il y a une tradition ancienne en Iran qui s'appelle Bast Nechestan, ça veut dire s'asseoir fermement. C'était une arme de lutte, et ça l'est toujours, une arme de lutte du clergé. Quand ils vont quelque part, dans un mausolée en général, et ils s'assoient fermement. Donc ils sont là, une sorte de sitting traditionnel qu'ils font. Donc ils s'amusent, il y a plusieurs sittings dans cette période-là, si tu veux, pendant la révolution constitutionnelle. Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois, ils vont à l'ambassade britannique. Ils vont s'asseoir, ils demandent au consul britannique, est-ce que nous avons le droit de nous installer dans vos jardins ? Et le gars, il dit, rien ne m'oblige à vous évacuer, vous pouvez vous installer si vous voulez. Donc il s'installe dans l'ambassade britannique, même à cette époque-là, contre... Et c'est très intéressant dans le sens où il reste là-bas pendant quasiment 2 mois, et le consul dit que c'est devenu une espèce d'université de sciences politiques. Parce que très vite, tous les métiers différents du bazar, ils étaient installés, qu'ils avaient installé des tentes, il y avait plus de 500 tentes. Donc pour donner une idée de la situation au moment de la révolution constitutionnelle en Iran et le ressenti de la population, j'ai traduit donc un bout de discours qui était rapporté par le délégué du ministère des Affaires étrangères britannique en 1906. Donc il raconte qu'un mollah avait fait ce discours-là, donc il a pris note de ce discours. « Ô Iraniens, mes chers frères, jusqu'à quel moment vous allez rester dans votre ivresse traître ? Quand est-ce que vous allez vous réveiller, ouvrir vos yeux, regarder autour de vous pour voir à quel point le monde s'est civilisé ? Nous n'avons pas d'armement, pas d'armée, aucune ordre financière fiable, car notre État nous en empêche et se dresse contre nous comme un obstacle. Cette situation arriérée est le fait du despotisme, de l'injustice, de l'absence de loi. Votre clergé est dans l'erreur quand il prétend que la vie est courte et les honneurs d'ici-bas ne sont que l'expression des égoïsmes. Ces prêches vous détournent de ce monde et vous entraînent vers l'acceptation de l'esclavage et l'ignorance. Les rois, aussi avec leur main mise sur vos biens, vos libertés et vos droits, ne font que vous piller. Et le résultat de tout ceci est l'invasion des étrangers qui vous prennent votre argent, vos biens et votre richesse, et à la place vous donnent des vêtements colorés, des plats multicolores et des produits de luxe. Tout ceci est la raison de votre misère qui s'accompagne du faste de la vie des rois, de certains des membres de clergé et des étrangers. Ça donne vraiment l'ambiance de la révolution constitutionnelle. La révolution, donc, après ce fameux sitting dont j'ai parlé, 3 semaines après, l'envoyé spécial britannique, ce qui s'est passé dans l'enceinte de l'ambassade, qui était, comme je dis, devenue une espèce d'école ouverte des sciences politiques, le gouvernement les a nommés, ces gens-là qui faisaient du sitting, comme des traîtres pro-anglais, les choses qu'aujourd'hui aussi on a l'habitude d'entendre. Mais l'ampleur de la grève et l'occupation et aussi les télégrammes qui étaient envoyés dans les provinces en soutien du mouvement a fait avancer l'idée d'un parlement. Donc Mozaffar Eddin Shah, qui était au pouvoir à cette époque, a été obligé de signer la proclamation de l'Assemblée nationale, l'ouverture de l'Assemblée nationale, et a nommé un constitutionnaliste qui s'appelait Moshiro Dole, qui était connu pour cette position en faveur de la liberté comme premier ministre. Ainsi, la révolution donc arrive à un premier stade et donc l'assemblée élue s'ouvre en octobre 1906. On voit que cette assemblée qui est élue à ce moment-là, il y a une très forte proportion de l'assemblée qui est pour les couches supérieures de la société. Donc,
le suffrage est censitaire d'ailleurs.
Le suffrage est censitaire, masculin. D'ailleurs, quand on lit les gens qui ont le droit, si tu veux, de se présenter. Par exemple, on peut lire que les grands commerçants possédant boutiques et emplacements fixes. les gros propriétaires terriens de plus de 1000 tomans, les artisans ayant une boutique dont la location soit au moins égale au prix moyen du marché.
Donc, oui, c'est vraiment une assemblée oligarchique avec finalement les classes dominantes traditionnelles qui, sous le drapeau entre guillemets de la constitution, de la liberté, etc., en réalité essayent de récupérer le pouvoir pour elles-mêmes au détriment d'une transformation sociopolitique bourgeoise. Finalement, ça a les apparences d'une révolution bourgeoise, mais en réalité, ceux qui tentent de prendre le pouvoir à ce moment-là et qui sont dans l'assemblée constituante sont principalement les classes dominantes traditionnelles qui ne veulent pas de changements sociopolitiques majeurs, mais qui par contre ont saisi l'opportunité de cette révolution pour récupérer du pouvoir au détriment du chat.
Absolument. Ils sont en fait contre ce qu'on appelle le Estebdat. Estebdat, ça veut dire le despotisme. Ils sont contre le despotisme de la monarchie. Donc c'est une société qui veut s'agrandir, qui veut en expansion. On a une nouvelle bourgeoisie qui s'est créée. Donc comme tu dis, il y a des tendances nationalistes bourgeoises d'un côté, mais en même temps, il y a les freins des propriétaires terriens, enfin de tous les notables qui ne veulent pas, si tu veux, que cette structure soit mise en question. Donc d'ailleurs, la Révolution française aussi, ça n'a pas été quelque chose de direct. Donc ça va durer, cette affaire-là. Mais ce premier assemblée, donc les représentants représentaient essentiellement la classe moyenne traditionnelle. Il y avait 20% du clergé, 26% des corporations et des artisans, 15% de commerçants. Voilà, donc on a vu petit à petit, au sein même de cette assemblée, trois tendances, les despotes, les modérés et les libéraux. Les despotes appartenaient aux princes, aux couches supérieures, les propriétaires terriens et autres. Les modérés, qui semblaient avoir la majorité, étaient essentiellement constitués par les gros commerçants du bazar. On voit toutes les tendances, donc on rentre dans une période d'affrontement, de lutte de classe parmi ces classes qui va durer en fait jusqu'au bout de la révolution constitutionnelle. Il y a une période contre-révolutionnaire, le Majlis a été bombardé par Mohamed Shah. Quand Mohamed Shah il prend le pouvoir, il y a toute une avancée de la contre-révolution qui ne veut pas entendre parler de ça. Et donc on a une période de guerre civile qui est très importante à ce moment-là, entre 1906 et 1909, et donc, mais qui, in fine, la constitution qui a été signée en 1906 reste de rigueur, si tu veux, jusqu'à la révolution de 1979, où la République islamique va changer la constitution en 1980. Ils vont complètement changer ça. Donc on a une monarchie constitutionnelle, si tu veux, qui, au bout de la révolution constitutionnelle, se met en place.
Et peut-être du coup, pour finir, avant de faire une pause musicale et d'entrer dans l'ère de Reza Shah et l'ascension de la dynastie Pahlavi au pouvoir en Iran à partir de 1925 comme régime impérial et puis dès le début des années 1920, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale en Iran, qui s'appelle la Perse donc à cette époque, et puis... les jeux donc inter-impérialistes de cette période, c'est une période très dure pour la Perse puisqu'il y a 2 millions de morts quand même liés à la Première Guerre mondiale, quelque chose qui souvent n'est pas connu parce qu'on estime que la Première Guerre mondiale c'est principalement l'Europe. En réalité, il y a aussi un front oriental entre guillemets. Et puis l'autre aspect quand même un petit peu important et qui précède les années 1920. C'est la montée en puissance d'un mouvement socialiste relativement important avant 1917 et puis encore plus après 1917, donc sur l'inspiration de la révolution russe, mais pas forcément une vision marxiste-léniniste, comme tu le dis dans ta préface. Il y a quand même une diversité, une liberté de pensée relativement importante jusqu'aux années 1920, où là peut-être que l'hégémonie marxiste-léniniste va plus se faire sentir. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi une période, les années 1910, d'effervescence pour le mouvement socialiste iranien, qui part donc principalement des groupes constitués autour de Bakou, des immigrés, et puis l'inspiration de la social-démocratie russe d'abord, et puis de la révolution russe de 1917.
Oui, on a donc le Parti communiste iranien officiel se crée en 1920 sous l'impulsion soviétique. Mais en fait, on a des mouvements de révolutionnaires qui sont créés, que ce soit les Mirza Kuchakhan, Jangali, Satorkhan, Borelfran, à cette période-là, Satorkhan ou Borelfran, qui sont déclarés en fait au moment de la guerre civile qui a eu. Donc dans la région de Azerbaïdjan surtout, on a eu Satorkhan et Borelfran, qui sont les grandes révolutionnaires de l'histoire de la constitution iranienne, qui sont venus. Et ils ont été très très fortes. Les germes d'un parti communiste qui existait en 1905, qui étaient des sociodémocrates qui avaient participé à la révolution de 1905 en Russie, qui sont venus donc du côté d'Azerbaïdjan et qui ont lutté très fortement, et ça a duré jusqu'au moment de Reza Shah, où Mirza Kuchakhan, on lui a ramené la tête de Mirza Kuchakhan, qu'ils avaient complètement, c'était le mouvement Jangali, le mouvement de la forêt, comme ils appellent à l'époque. Ils étaient très très forts, oui, c'était eux en fait qui ont fait aboutir en quelque sorte la révolution constitutionnelle, parce qu'une fois il y a eu un coup d'état, le coup d'état de Liakhov, et c'est eux qui sont venus au secours en réalité de la révolution constitutionnelle et qui ont sauvé la révolution constitutionnelle. Donc ils ont eu un rôle très important. Mais d'ailleurs, après la révolution russe, quand on a le retrait soviétique, le retrait de l'armée russe de l'Iran, à un moment donné, l'Empire britannique, il pense même à faire de l'Iran une espèce de protectorat. Et donc, ils ont consolidé leur suprématie. Par exemple, dans la conférence de paix de Versailles, il arrive à isoler complètement l'Iran et ils ont signé un accord d'amitié et d'assistance en août 1909 avec le gouvernement. Et cet accord, ce traité de 1919, donc si tu veux, qui réduisait en fait la Perse à ce type de simple protectorat, a créé beaucoup de divergences en réalité. Le Majlis n'a pas voulu signer, parce que le Majlis, justement, il avait un côté révolutionnaire, puisque c'était des constitutionnels. Le Parlement et l'opinion publique, avec les olamas et même les socialistes dont on parle, ils étaient contre, tout à fait hostiles à ce traité. À la fin de cet épisode, donc en 1920, on a par exemple Sheikh Mohammad Khiabani déclenche une véritable révolte contre ce traité en avril et septembre 1920. Cette révolte est écrasée, mais bon, le mécontentement perdure. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, dans la tête des Britanniques, le nouveau représentant qui était arrivé en Iran, c'était un gars qui s'appelait Norman. Il pense qu'il a besoin d'une personnalité forte. Reza Shah, il était quelqu'un qui faisait partie de l'armée cosaque. Ils étaient quelques milliers de personnes. Mais à ce moment-là, les Britanniques font que cette armée cosaque, les officiers soient des Iraniens, des Perses. Et donc Reza Shah faisait partie de ces gens-là. Et donc l'idée de mettre un pouvoir, quelqu'un de fort, qui soit capable d'assurer la stabilité la stabilité du pays. Donc c'est à ce moment-là que nous, on a la prise du pouvoir de Reza Shah, qui est en fait encore un coup de force donc, des Britanniques. Le 21 février 1921, il arrive à la tête de la brigade cosaque avec 2500 personnes. Reza Shah, il arrive sur Téhéran et s'empare de la ville pratiquement sans aucune opposition. C'est le coup d'état de 1921. D'ailleurs, c'est Churchill, à un moment donné, apparemment, il a une phrase très forte qu'il a dit, c'est nous, on l'a amené, on l'a licencié. Quoi.
Oui, c'est effectivement vraiment un tournant de l'histoire iranienne. Voilà, c'est cette prise de pouvoir par celui qui va être le fondateur de la dynastie Pahlavi, puisque, effectivement, il va, comme le dit Abrahamian, créer un État centralisé, bureaucratique, fort. C'est lui qui va lancer une véritable modernisation industrielle capitaliste, puisque le capitalisme jusque-là était principalement une force exogène qui venait principalement des Britanniques, alors que là, il va y avoir un développement endogène du capitalisme sous l'impulsion de l'État centralisé de Reza Shah, non pas tellement parce qu'il aurait envie de développer le capitalisme, mais simplement pour affermir son pouvoir comme un dictateur méthodique. Il va chercher à développer l'État centralisé, bureaucratique au maximum, et également il va chercher à développer le capitalisme industriel. Donc là, on passe vraiment dans une nouvelle période qui suit celle voilà, de cette période de révolution, de contre-révolution et de guerre civile et inter-impérialiste voilà, qui va de 1905 jusqu'à 1920. Donc là, on va passer une pause musicale avant d'aborder donc, la deuxième partie de notre émission.
Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les Soviétiques arrivent, les Américains les suivent. Notre Afrique est confuse. Et c'est des coups d'État, ça suffit comme ça. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les militaires africains sont des victimes entre leurs mains. Ils les dressent les uns contre les autres pour leurs idéaux coloniaux comme des robots. Ça suffit comme ça, yes, yes.